vous rappelez de l'expression Kolitzrich Yetev Yitzhar, faire le passage avec nous. Alors, ce que nous avons étudié la fois précédente, c'était, je voulais vous l'indiquer, en relation avec son étude avec le Hanra, vous vous rappelez ? Mais vous verrez vous-même par expérience, nous sommes dans un temps de. Nous sommes à l'Armahania à jour, c'est-à-dire de tous les pays du monde, des Neshamot, si je veux dire, se mettent en marche pour faire le Pessah d'Israël avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non ? Comment ? On sent que. Enfin, quand vous irez un peu plus longtemps en Israël à Jérusalem, Jérusalem est actuellement une espèce de maison juive où de partout des gens viennent et disent on veut aller avec vous. Vous ne le sentez pas ça? Non, des non-juifs. Depuis les Scandinaves jusqu'aux Japonais en passant par les Américains du Sud. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Bon. Alors, le premier discours commence à Avadim, et nous allons commencer à le lire. Et puis, demain, on commencera le deuxième, qui est Mitechila Ode Avodazara, c'est-à-dire juste après le problème des quatre enfants. Et ça, c'est le deuxième discours. Bon, alors la réponse la plus urgente aux questions de l'enfant, de Manishtana, c'est l'événement de la sortie d'Égypte. Et ensuite, on va approfondir dans le deuxième discours, on va reprendre cette histoire depuis l'origine, d'où ça va voir. Vous voyez, pas le décalage, mais enfin les deux registres que nous avons là. Alors on commence. Avadim, Aïnou, les pharaons et Mitzraïm. Voilà comment commence la réponse du Père. Avadim aïnou le pharaon et Mitzrayim. C'est nécessaire que je traduise ? Vous me suivez ? Vayotienu Hashem lokenu misham be'at hazaka v'izroa netuya. Pourquoi nous commémorons cet événement de cette manière ? C'est dit de façon très claire. Si Dieu lui-même n'était pas intervenu pour nous faire sortir de cet exil, nous n'aurions pas pu sortir de nous-mêmes. C'est clair ? Bon. Si j'avais le temps, je vous montrerai un peu plus, de façon un peu plus nuancée. En réalité, dans le peuple d'Israël en Égypte, y compris le Hébreu d'ailleurs, il y avait 5 niveaux de capacité de sortir par sa propre initiative ou contraint, forcé à tous les niveaux. Mais il y a ici une idée très importante. Et parce que nous vivons cela de notre temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque quelqu'un est dans la situation de Galout, il ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut le tirer. Que c'est un vrai miracle de pouvoir sortir d'Égypte. Je vais vous raconter une histoire qui me revient en... une anecdote vécue qui me revient en mémoire. J'ai raconté la dernière, il me semble, il y a 2 ans. Je rappelle, et quand j'habitais la France, j'habitais la banlieue, et habitait dans cette banlieue un juif qui était rescapé des camps et qui en est ressorti malade, enfin... comment dire, malade... pas dire malade mental, c'est pas le mot, en fait, inguérissable. Hein? Oui, plus que traumatisé, inguérissable. Je me rappelle très bien la veille d'un Pessah. J'étais au marché en train d'acheter la salade, et puis je le rencontre au marché. Il me rencontre, je le vois venir de loin, et je voyais qu'il était mélancolique. Il me dit, Monsieur Askenazi, dites-moi quelque chose. Alors, si je ne sais pas quoi lui dire pour le rassurer, enfin pas le rassurer, mais le préparer à la fête. Et puis j'ai eu l'idée de lui dire, écoutez, si déjà on est sorti d'Égypte, tout est possible. Alors il m'a regardé, il m'a dit, vous avez raison, et il est allé acheter sa salade. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, si déjà on a pu sortir d'Égypte, c'est que tous les miracles sont possibles. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est ça. Quand on a vécu ce qu'on appelle en français l'aliénation, le fait d'être, je ne sais pas comment dire, englué dans la situation d'exil, il faut voir l'envergure de l'événement. Qu'un peuple entier soit arraché du dedans d'une civilisation entière, c'est ce que dit le texte. Il a fallu que ce soit avec force et contre les obstacles représentés par les Égyptiens et contre les obstacles représentés par l'inertie des Hébreux eux-mêmes. Bon, je vous interprète ça un peu plus en termes contemporains, mais vous comprenez pourquoi. Vous bien comprendre cela. C'est-à-dire que tous les obstacles possibles et imaginables se déchaînent pour empêcher la sortie d'Égypte. Et à tous les niveaux. Et les niveaux les pires, c'est le niveau psychologique. Bon, de ça, on a parlé déjà toute l'année. Tous ces raisonnements que et les ennemis d'Israël, des Juifs et les Juifs se font pour se donner des raisons de ne pas sortir d'Égypte. Et les raisons les pires, c'est les raisons religieuses, comme vous savez. Ça, c'est vraiment Maas et Satan. Vous comprenez ce que je veux dire? Retenez bien ça. Regardez comment c'est déjà depuis l'origine, c'est les mêmes difficultés. Et c'est ce que dit la suite. Ve'ilu lo hotzi akadosh baruch hu et avotenu mimitzrayim. Et si Dieu lui-même n'avait pas fait sortir nos ancêtres de l'Égypte, regardez la nuance. D'abord, on dit nous étions esclaves en Égypte. Mais si Dieu ne l'avait pas fait sortir, n'avait pas fait sortir nos ancêtres, Adaïn, encore, à nous, valez-nous, les valez-nous, nous, nos enfants et nos petits-enfants, mais je crois pas dit, valez-nous, les pharaons et Mitzrayim. Nous serions encore asservis aux pharaons en Égypte. Avant d'aller de voir la suite, je reprends à cela. Mais donc, première proposition. La réponse à la question de l'enfant, c'est qu'est-ce qu'on commémore ce soir? Qu'est-ce qui se passe à table? On ne mange pas comme d'habitude, on n'est pas assis comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà ce qui se passe. On commémore ce fait. Nous étions esclaves et Dieu nous a fait sortir de cette, nous a fait sortir de cet esclavage. Première proposition. Et ensuite, c'est plus précis. Et si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres de l'Égypte, non seulement eux, mais nous et nos enfants et nos petits-enfants, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, on sera encore là-bas. Ça y est? L'idée? Alors je reviens un peu plus dans le détail. Regardez la deuxième phrase. Vayotzi enu Hashem Elokeinu Misham, Be'atchazaka Bizroa Netuya. Depuis le début. Avadim Ainu le Pharo Bemitzraim. Il y a deux précisions. Avadim Ainu le Pharo et Bemitzraim. C'est clair? Nous étions esclaves au Pharaon en Égypte. Ensuite, et si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres de l'Égypte, nous serions encore, nous et nos enfants et nos petits-enfants, asservi au Pharaon en Égypte. Qu'est-ce que vous entendez là-dedans?
Okay.
Vous avez compris ma question? Bon, vous voulez que je remette ça au top? Il y a deux éléments. Nous étions esclaves au Pharaon en Égypte. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir de l'Égypte, nous serions encore esclaves du Pharaon en Égypte. Que vous entendez?
Il s'est fait sortir d'Égypte, mais pas de l'esclavage.
Mais pas d'esclavage de
Pharaon.
Claire, ça veut dire que nous sommes encore esclaves du Pharaon, mais pas en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris?
Ça confirme le fait que c'est pas terminé.
Exact. Ça veut dire que c'est pas achevé. C'est-à-dire que ce qu'on a gagné de la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte. L'asservissement au Pharaon, ça, eh bien, on est encore plus ou moins à ça. Vous suivez? Je vais attendre Rachel pour reprendre l'affaire. Bien, commençons, si vous voulez, un peu à définir ça. Qu'est-ce que ça veut dire, être esclave du pharaon?
De la civilisation, de la civilisation.
Peut-être ça, c'est l'Égypte. J'ai pas répondu, hein, mais...
C'est la même chose qu'on dit aussi quelquefois, on dit souvent que Israël est sorti d'Égypte, mais ce qui reste à faire aussi maintenant, c'est de faire sortir l'Égypte d'Israël.
L'exil d'Israël. Nahon, c'est ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Bon, ouais, allez, approfondir un peu plus.
Est-ce que c'est vraiment Pharaon, quand on dit Pharaon? Est-ce que c'est autre chose?
Non, c'est le Pharaon, vous n'avez pas de doute. Mais non, ne dites plus en français, le Pharaon.
C'est les valeurs de la civilisation qui représente, de laquelle.
Oui. Mais plus profondément que ça encore, vous allez prendre vous avez vos livres de Bréchit ici?
Il y en a plusieurs.
Oui. Alors prenez verset 7 du chapitre 2, bien sûr.
C'est une certaine forme d'idolâtrie, puisque c'est Pharaon, c'est un dieu.
Alors je vais vous montrer ça dans le terme même. Verset 7 du chapitre 2. Essayer de vous montrer, comment dire, une dimension un peu plus religieuse encore, si j'ose dire, de l'événement. D'aliénation au pharaon encore. On va essayer de comprendre le passage. Bon, voilà votre verset. Ok. Il y a trois parties. Vaïd, c'est Rachel de l'Okim et Adam, à part Mina Adam. Oui, je traduis, s'il te plaît. Bon, et Dieu forme Rachel et l'Okim, forme l'homme, à part poussière, prise de la terre. Vaïd, par paix, à part Bishmatraï. Il insuffla dans son visage, il anima son visage de l'âme de vie. Vaïd, Adam et Nefeshraïa, et l'homme devint une personne vivante. Ça, c'est le verset qui décrit la création de l'homme, si vous voulez, création entre guillemets, l'histoire de l'homme en trois moments. Il est d'abord pris de Afar Mina Adama, ensuite on lui donne un Neshama, deuxième moment, troisième moment, il devient personne vivante. Okay. Et alors il y a dans la relation, ces deux moments. D'accord. Et dans la relation, ces deux moments, elle est où là? J'explique. Vous avez bien compris? Bon. L'homme est formé, littéralement en français, poussière de la terre, vous entendez, Afar Mina Adama. Et dans cet homme qui est Afar Mina Adama, il y a une Neshama, en Gilgul. Bon, il y a une Neshama. La Neshama est en galoute dans le corps, à travers le rapport. Okay. Bon. Mais cette Neshama est destinée à devenir Neshraya. Alors, dans l'articulation de ces deux moments, c'est la galoute. L'articulation de ces deux moments, c'est la Géoula. Je reprends le même plan dans l'histoire d'Israël. Alors, Israël est en galoute dans Mitzrayim. Ensuite, au désert, on reçoit la Torah. Et en Eretz Israël, on devient Nefesh Haya. Bon, pour voir tous les détails maintenant à la fois, celui-là. Ça vous dit rien, ça? Ah, trop mal. Pharaon, c'est le lettre de R. Bon, ça pour vous comprenez l'idée qu'il y a là. C'est-à-dire, finalement, l'asservissement à Pharaon, c'est à tous les niveaux de conditionnement et de détermination l'asservissement de la Neshama au rapport. à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris les déterminations que maintenant la conscience moderne commence un peu à découvrir au niveau sociopolitique. C'est-à-dire nous sommes en galoute dans des conditionnements historiques qui finalement, au niveau de la société, c'est l'exil tel que nous l'avons connu, premièrement chez le pharaon, mais ensuite dans tous les empires, etc. Par conséquent, de l'Égypte, nous sommes sortis. Mais asservis au pharaon, nous sommes encore dans les autres de l'Ouyot. Pas en Égypte, mais dans les autres.
Pourquoi faire cette vidéo-là? Comment se partage l'Égypte? Par exemple, l'Égypte, généralement, c'est quelque chose qui est émotionnel.
Enfin, je vais donner une réponse simple. Tant que ce n'est pas achevé, c'est vaillé. Non, j'ai bien compris ta question. Tant que ce n'est pas encore achevé, c'est vaillé. C'est vrai, c'est la même idée. En fait, la règle, c'est vaillé, bimé, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas achevé, qu'il y a effort. Un peu, si vous voulez. Alors, la fin de la... Je vais vous montrer encore une indication de l'indication par les commandateurs. Les deux unités de la NCR correspondent au duel de l'Israël. C'est la même façon. C'est la lune de la formation et qui est au niveau de... Alors, Vafilou, Kulanu Hachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Atora, Mitzvah Alenu, le Saper Vitiat Mitzrayim, Vechola Marbe, le Saper Vitiat Mitzrayim, Arezé Meshuba. Là, je vais en profiter pour vous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, il me semble qu'on a étudié au début de l'année avec la Tfila, mais peut-être pas jusque-là. Les différents niveaux. Afilu kulanu hachamim, kulanu nevonim, kulanu yodaim et atora. Vous avez d'ailleurs des communautés où on ajoute kulanu zkenim. Ken? Les Ashkenazim. Alors, hacham, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de quelqu'un d'autre. Hacham. C'est qu'on dit talmid hacham. Ken? Navon. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre des livres. La formule, c'est Bina. Et Avin Davar, Mitor Davar. Ou pour le dire d'une autre manière, Hacham, c'est quelqu'un qui peut comprendre de quelqu'un d'autre. Navon, c'est quelqu'un qui peut comprendre de ce qu'il sait déjà, il comprend plus. Un livre ou sa mémoire. Okay? Navon. Mais Yodim, Dea, c'est identifié par soi-même. Et tant qu'on n'arrive pas à Dea, on n'a pas compris vraiment. Pour employer le terme simple de comprendre en français, il y a trois niveaux de compréhension. Si j'apprends un Hacham me transmet sa connaissance. J'apprends un livre, je comprends par moi-même à partir du livre. Mais je n'aurais pas dû dire par moi-même. Je comprends moi-même à partir du livre. Mais la darat, c'est identifier ce qu'on a entendu ou ce qu'on a appris. Donc on n'est pas arrivé à darat. On n'a pas vraiment compris. Vous avez, je pense, saisi l'idée. Okay? Alors retenez bien quel est l'ordre de ce niveau-là. Ce n'est pas exactement celui qui nous est donné dans la Mishnah ici. Une autre raison. C'est d'abord Bina, ensuite Chochma, et après Da'at. Je vous donnerai une règle que peut-être nous avons déjà rencontrée. Faites bien attention que l'ordre est très important. Zekanim. Hein? Bon, Zekanim, c'est la connaissance traditionnelle qui passe par l'Eskanim. C'est l'ordre, c'est Bina, Chochma, Da'at.
Quels livres sont plus valorisés que l'enseignement la prend par quelqu'un d'autre, alors que moi, généralement, on n'a toujours pas dit l'esprit.
Non, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
Bina,
Chochma, Da'at. Je vais vous expliquer. En vous donnant une règle, pour que vous compreniez bien les niveaux. On peut très bien apprendre toute sa vie dans le livre et puis ne rien comprendre si on n'a pas entendu l'explication d'un racham de ce qu'il y a dans le livre. C'est bien cette chose-là.
Pourquoi l'éponyme est après le racham?
Justement, je vous ai dit, l'ordre n'est pas le même ici. Je vais expliquer ta question ici brièvement. Une question d'exégèse classique. Rafil ou kulano hachamim aurait pu suffire. Rafil ou kulano hachamim mitzvah alen. Seulement, tout le monde ne peut pas être hacham. Par conséquent, même Rafil ou kulano hachamim, on ne peut pas nevonim. Mais tout le monde ne peut pas être navon. Donc, yodaim et tator. Mais en fait, l'ordre du point de vue de l'accès à la connaissance, c'est bina, chochma, da'at. Bon, vous avez ça dans l'expression Chochma bina vada'at. Okay? Mais Chochma bina vada'at, c'est dans l'ordre descendant, du maître à l'élève, alors que l'ordre que je vous donne là, c'est l'ordre de l'acquisition de la connaissance, de l'élève au maître. Bina, Chochma, da'at. Alors, bina, je crois que je vous l'ai cité cette règle une fois, mais c'est très important, réfléchissez bien à cela. Bina, c'est la capacité de distinguer une connaissance d'une autre. C'est-à-dire la capacité de comprendre en quoi deux choses sont différentes. C'est ça, Bina. Chochma, c'est la capacité de comprendre en quoi deux choses différentes sont les mêmes. Mais faites bien attention qu'il y a un ordre. C'est-à-dire, si j'ai pas d'abord un degré de Bina, le degré de Chochma correspondant, c'est du délire. Parce que percevoir deux choses différentes comme étant les mêmes, sans avoir retenu dans sa connaissance en quoi elles sont différentes, c'est ça le délire. Mais bien attention à ça. Okay. Est-ce que c'est clair? Après, je vous donnerai un exemple. Et ensuite, la relation de Da'at est beaucoup plus profonde parce qu'elle implique les deux. Et alors, Da'at, c'est connaître par moi-même. Tant que je n'arrive pas à identifier la connaissance que j'ai par moi-même, elle n'est pas encore mienne. Et donc, dans Da'at, il y a la dimension de l'expérience personnelle. Et elle implique les deux modalités. Alors. C'est-à-dire, on arrive à Da'at que si on est capable et de Bina et de Chochma. Bon, je vais vous donner deux exemples classiques, parce que c'est les questions que tout le monde se pose quand on commence à étudier la Torah. Un homme et une femme, c'est pas la même chose, et ça n'a rien à voir, ça c'est Bina. Maintenant, un homme et une femme, c'est la même chose, ça c'est Chochma. Vous avez compris? Vous avez encore compris? Da'at, c'est quand on est grand-père. Da'at, c'est Kenim. Non, mais votre question, c'est pas une blague. Enfin, je vais en parler très, très rapidement. Un Talmid Chacham, vraiment, est capable de comprendre à la fois ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme. Donc on n'arrive pas là, on n'est pas Talmud Chacham. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Non? Je vais essayer d'éclairer. Un homme n'arrivera jamais à comprendre ce que c'est qu'une femme, et une femme n'arrivera jamais à comprendre ce que c'est qu'un homme. On s'aime, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on récolte? Une autre. Mais le Talmud Chacham a les deux capacités. Alors ça c'est Da'at. C'est clair? Bon, je vous donne un autre exemple. Un juif et un goy, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Bina. Un juif et un goy, c'est la même chose, ça c'est hors. Mais mélangez pas les niveaux, vous comprenez? C'est-à-dire qu'une chose est vraie qu'après l'autre. C'est-à-dire, quand on comprend à quel point un juif et un goy c'est différent, alors on peut comprendre que les deux étaient
l'autre. Au niveau de l'homme, on peut avoir d'expérience.
Mais
à ce niveau-là, on peut avoir d'expérience.
Bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Il y a un verset qui nous dit Nik Amecha ke Israël Goy Echad Baret. Je ne me rappelle pas de ce verset. Un vrai goy, c'est ça, un juif.
Quelle différence avec ce qu'on appelait analyse et synthèse dans les... Je parle, c'est un petit peu le même.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un peu, comment dire, un peu parallèle. Je veux dire, Bina. C'est l'intelligence du discernement. Et par conséquent, l'analyse est importante pour Bina. Mais l'analyse, ça ne suffit pas. Tandis que dans Chokhma, il y a l'intuition de l'unité des données. Dans Chokhma, il y a la connaissance par jugement qui relie un prédicat et un sujet. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de logique. Bien. Je ne sais pas si on est arrivé à l'heure, mais pile. Bon, alors écoutez, demain, bon, ça c'est pour l'événement de la sortie d'Égypte. Alors demain, on étudiera la soukia de Mitterina ou d'Aolazara. Et s'il nous reste du temps et que ma voix s'est éclaircie, on chantera quelques bisounines. Bon, tu as pu avoir Madame Témanis. Madame Témanis. Il faut l'appeler parce que je m'en vais. Thank you.